Au flux et à mesure, le magazine de Tchat FM, du lundi au vendredi à 18h. Jeudi, social et politique, local et thématique, par la rédaction participative de Tchat.
Il faut vivre et il faut penser intensément à notre époque, la construire et ne pas avoir peur. Et nous ne serons jamais, mais jamais trop en avance.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans Au flux et à mesure, nous vous proposons d'écouter une émission spéciale sur l'accueil des réfugiés. En effet, l'élan de solidarité suscité par la guerre en Ukraine a soulevé de nombreuses questions, notamment celle de la différence de traitement entre les réfugiés. Avec Louis, stagiaire à Jet pour une semaine, nous sommes donc allés interroger différents acteurs et actrices de l'accueil des réfugiés à Nantes. Nous vous proposons d'écouter une émission en deux parties. Pour la première partie, nous sommes allés à la manufacture des tabacs de Nantes, au deuxième étage, là où a été aménagé un espace d'accueil pour les Ukrainiens et Ukrainiennes qui arrivent à Nantes. Nous avons pu interroger Yann Lowe, Damien Marmet et Karina, interprètes pour Trizoub. Alexandra a aussi pu interroger Yves Pascoe, élu de la ville de Nantes, en charge de la question des migrants. Dans la deuxième partie de l'émission, nous sommes allés à l'autre cantine pour parler avec Juna Mila de l'accueil des réfugiés qui ne sont pas ukrainiens et de cette différence de traitement, qu'il qualifie de solidarité à deux vitesses, différente pour les réfugiés ukrainiens et les réfugiés non ukrainiens. Tout de suite, vous allez pouvoir écouter une interview à la manufacture des tabacs de Yann Lowe et Damien Marmet. Nous étions avec une journaliste de radio. C'est donc une interview à trois voix. Juste après, vous allez pouvoir écouter l'interview de Karina, interprète pour Trizoub. Bonne écoute. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît ?
Je m'appelle Yann Lowe et je suis coordinateur pour l'association Trizoub.
Damien Marmet, chargé de projet risque au pôle protection des populations, à la ville de Nantes.
On arrive donc à la manufacture des tabacs, au deuxième étage, en haut des escaliers. Donc à l'entrée, on peut voir un espace d'accueil avec de la nourriture et un espace de don avec des interprètes qui sont là pour accueillir. Ensuite, on entre dans la pièce principale avec sur le côté un espace santé avec les bénévoles de la Croix-Rouge qui viennent pour aider les réfugiés à prendre des renseignements. Ensuite, un pôle informatique pour les personnes qui veulent garder contact avec leur famille, leurs amis, la population en Ukraine. Et maintenant, je vous laisse avec Damien Marmet qui va vous présenter le reste de la salle.
On a un box d'accueil géré par le CCAS de la ville de Nantes, donc pour gérer vraiment les dossiers de manière individuelle, d'aide financière et puis tous les aiguillages qu'il peut y avoir en matière sociale. On a un box de consultation médicale qui lui, donc là c'est un médecin qui est présent deux après-midi par semaine de manière bénévole, qui lui est là pour faire de la prescription médicale de premier niveau et éventuellement aiguiller les patients vers des spécialistes, des praticiens spécialistes sur Nantes et les environs. Le reste de l'espace, on a une zone de, on va dire, d'essayage pour des tenues vestimentaires. Donc, certains réfugiés sont arrivés juste avec une petite valise, et là, on leur permet d'avoir accès à un petit stock de vêtements. On a tout un espace de jeu pour les enfants, avec une grande tente qui sert vraiment de lieu de détente. On a une zone un peu télévision avec une télé, des lecteurs DVD et des DVD en ukrainien. Et puis ensuite, on a un grand espace avec des tables et des chaises où les gens peuvent se retrouver pour discuter, pour se poser un petit peu au chaud entre eux.
Au flux et à mesure, Jet FM.
On est ici donc à la manufacture des tabacs. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est initialement la manufacture des tabacs et qu'est-ce qui a été fait aujourd'hui pour l'accueil des réfugiés ukrainiens ?
Donc, la manufacture des tabacs est un bâtiment associatif qui sert à accueillir en fait des associations, des expositions. Là, dans ce cas de figure, on a en quelque sorte réquisitionné le dernier étage et monté un dispositif pour accueillir les réfugiés de manière adaptée en journée.
Quel est le rôle de Trizoub ici ?
Alors, l'association Trizoub sur aujourd'hui la crise avec l'Ukraine, il y a trois missions principales. Il y a la logistique humanitaire, donc avec la collecte, le tri et l'envoi des dons qui sont récoltés sur l'agglomération nantaise vers l'Ukraine. Il y a le soutien et la facilitation à l'accueil des réfugiés qui arrivent ici sur Nantes et la Loire-Atlantique en général. Et après, il y a aussi tout l'aspect événementiel et culturel de promotion de la culture ukrainienne vis-à-vis de la France et des Nantais.
Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les moyens dégagés, que ce soit autant humain que monétaire, pour répondre à l'accueil des réfugiés ukrainiens ?
Alors, au niveau de l'association Trizoub, nous, les moyens qu'on a, donc qui sont pas uniquement dédiés à l'accueil des réfugiés, on a eu une subvention de la ville de Nantes de 10 000 euros et ensuite énormément de dons de particuliers et d'entreprises qui nous permettent de nous aider. On a aussi beaucoup de dons en nature. Donc, par exemple, les camions, les transports qui partent vers l'Ukraine aujourd'hui, on ne les paye pas tous. Et donc voilà, donc il y a, c'est principalement avec ça que pour l'instant on arrive à avancer.
Combien de réfugiés recevez-vous dans une journée ?
Actuellement, on est à peu près à 80 personnes accueillies par jour, femmes et enfants, enfants principalement.
Qu'est-ce qu'est le parcours type en fait d'un réfugié ukrainien avant d'arriver ici ?
Je pense qu'il y a plusieurs parcours types, on va dire. Il y a les gens qui arrivent par eux-mêmes en voiture, qui en général connaissent quelqu'un ici à Nantes, parce que Nantes, c'est pas forcément une ville très connue en Ukraine. Donc c'est des gens qui connaissent quelqu'un et qui arrivent ici, voilà, et qui en général trouvent une famille d'accueil, en tout cas de façon temporaire. Il y a les étudiants étrangers d'Ukraine qui arrivent et qui pour beaucoup sont francophones. Donc en fait, ils connaissent un peu Nantes, donc eux aussi arrivent. En général, c'est plutôt par train, parce que c'est pas forcément des gens qui avaient des voitures ou autres en Ukraine. Il y a les gens qui arrivent effectivement via les transports publics, donc les gares. Il y a des gens qui sont ramenés aussi en bus par certains convois. Et après, alors je sais ça a commencé à être organisé de Strasbourg et de Paris, des envois qui sont avec des ressortissants qui sont arrivés ici parce que justement Paris et certaines villes de l'Est commencent à être aussi saturées en termes de capacité d'accueil.
Comment ces réfugiés ont-ils été orientés à la manufacture des tabacs ?
Donc l'orientation se fait principalement par les réseaux sociaux, le bouche à oreille. C'est principalement par ce mode de communication qu'ils ont l'information.
Et quels sont certains enjeux auxquels les réfugiés doivent faire face quand ils arrivent ici en France ou dans d'autres pays d'Europe ?
Alors il y en a plusieurs. Il y a à la fois l'accueil en fait et l'adaptation à une culture. Quand on n'a pas choisi en fait et qu'en une semaine en fait c'est des gens qui ont perdu en une semaine, un mois, leur indépendance, leur travail, leur maison, leur langue, leur culture, parfois leur famille. Et donc ça fait partie des vrais enjeux aujourd'hui pour essayer d'avoir les meilleures conditions possibles d'accueil. Il y a l'enjeu du logement parce qu'il va falloir trouver des logements de façon temporaire. Et en fait, on ne sait pas pour combien de temps, pour toutes ces personnes qui arrivent aujourd'hui en France et en Europe. Et puis après, il y a l'accompagnement et la facilitation, justement, dans les démarches administratives, dans l'arrivée et la compréhension de la culture française. Il y a aussi la création de liens communautaires pour qu'en fait, ces gens ne se retrouvent pas isolés et qu'ils puissent rester aussi à la fois en intégration avec les Français, mais aussi qu'ils puissent se retrouver entre Ukrainiens pour pouvoir construire quelque chose ici.
Est-ce qu'il y a besoin d'accéder à des moyens de communication pour les réfugiés qui n'auraient pas accès pour contacter leur famille, que ce soit leur famille d'Ukraine ou leur famille de France ?
Donc, au niveau du centre d'accueil de jour, est mis à disposition des réfugiés des cartes SIM françaises qui leur permet de contacter et d'être joignable aussi par l'administration sur le territoire français. Et localement aussi, on a mis à disposition des ordinateurs de manière à ce qu'ils puissent se connecter à Internet. Voilà.
Quels sont les délais pour avoir un logement, des papiers et des allocations ?
Alors, pour l'instant, au niveau de l'obtention de la protection temporaire, on est sur à partir du moment où on s'enregistre en préfecture, on est sur un délai de une semaine et demie à trois semaines, en fonction des cas, sachant que ça va sûrement s'accélérer parce que la maison de l'administration nouvelle va ouvrir beaucoup plus de créneaux pour l'accueil des ressortissants ukrainiens. Sur la question du logement, pour l'instant, c'est un peu flou. Je ne saurais pas vous répondre. Pour les personnes qui n'ont pas de logement, il y a une mise à l'abri. Donc, elle est immédiate. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Et c'est quelque chose, d'ailleurs, avec la ville de Nantes, avec laquelle on a été rassuré depuis le début, c'est que personne ne sera laissé dehors. Et donc, voilà. à ce niveau-là, en tout cas sur la mise à l'abri, c'est immédiat. Sur le logement temporaire moyen terme, ça va de quelques semaines à un mois pour l'instant, mais c'est un point critique.
Est-ce que vous savez comment ça se passe pour les réfugiés qui n'ont pas leurs papiers ?
Tout le monde est accueilli. Après, il faut quand même qu'ils fassent la démarche d'aller faire auprès de leur ambassade pour récupérer des nouveaux papiers d'identité. Mais dans tous les cas, on peut quand même les enregistrer. Et c'est pas forcément un souci à ce niveau-là.
L'accueil, elle ferme à 21h maintenant. Est-ce que vous savez que font les réfugiés qui arrivent sans solution et tardivement ?
Pour tous les réfugiés qui arrivent de manière tardive, par quelle que soit la méthode de locomotion, ils peuvent se signaler au niveau de la ville de Nantes qui, comme on l'a dit tout à l'heure, fera le nécessaire pour qu'ils ne dorment pas à la rue, qu'ils ne soient pas à la rue. Donc ils seront hébergés dans un hôtel.
Vous avez mentionné les familles d'accueil françaises. Est-ce qu'il y a un schéma ici, quelque chose pour mettre en contact les familles d'accueil avec les réfugiés ? Je sais que dans d'autres pays comme l'Angleterre, ça ne marche pas. Le gouvernement ne gère pas cette situation. Comment ça se passe ici en France ?
Les familles d'accueil, c'est quelque chose d'un peu sensible. Il faut que les gens qui souhaitent héberger des Ukrainiens puissent s'enregistrer directement. Il y a un site du gouvernement sur « Je m'engage pour l'Ukraine » et dans ce cas-là, les gens peuvent proposer leur logement et des places d'hébergement. Nous, le seul point de vigilance qu'on a là-dessus, et c'est pour ça qu'il faut que ça passe par le gouvernement, c'est-à-dire que la plupart des réfugiés sont des femmes et des enfants qui sont vulnérables et que du coup, il faut qu'on arrive à avoir un suivi de ce qui se passe pour que tout se fasse de façon sécurisée et qu'on puisse avoir un peu une vision de où sont les gens et de comment aider s'il y a un problème.
Je note qu'il y a beaucoup de gens ici de la Croix-Rouge et aussi de Trisup qui sont des associations. Pensez-vous que le gouvernement devrait faire plus pour aider ? Est-ce que la responsabilité se retombe un peu sur les associations ou c'est un mélange des deux ?
Alors, je pense que le rôle des associations est de toute façon est assez clair de prendre en charge, enfin d'aider en tout cas la prise en charge de ces personnes. Nous, de notre côté, Association Trisup, tout ce que je peux dire, c'est qu'au niveau de la ville de Nantes, depuis le début, on a toujours eu une écoute, on a toujours été entendu et on a toujours travaillé, on va dire. Nous, on a pu refaire remonter les besoins de terrain qu'on constatait et on a toujours eu une écoute de la part de la ville de Nantes pour pouvoir répondre à ces besoins. Et pour nous, en tout cas... C'est ce qu'on veut faire primer, c'est surtout la collaboration entre les associations et le gouvernement. Voilà.
Et au-delà de votre présence aujourd'hui à la manufacture, l'association Trisup mène d'autres actions en faveur des réfugiés ukrainiens. Est-ce que vous savez lesquelles ?
Oui, bien sûr. Bah, comme je disais, du coup, on a une de nos grosses activités jusqu'à présent, ça a été la collecte, le tri des dons. Donc aujourd'hui, on a déjà envoyé 80 palettes. Donc on est à ça fait à peu près 40 tonnes de matériel qui est déjà parti vers l'Ukraine. On a encore 200 palettes en stock, donc qui vont partir avec nos camions, enfin avec des camions d'entreprises du territoire qui mettent à disposition chauffeurs et transport dans les 5 prochaines semaines. Et on a encore des collectes de dons qui arrivent, sachant que nous, on va fermer d'ici 2 semaines notre centre de collecte au 115 boulevard de la Pré-Reduc parce qu'on n'aura plus accès au local. On a ouvert un nouveau local en centre-ville qui sera pour le dépôt des petits dons et on privilégiera en fait les collectes déjà organisées. Nous, on a mis en place un kit logistique. Les gens peuvent collecter, les écoles, les entreprises, collecter directement là-bas. Nous, ils ont toutes les consignes de tri et ils nous emmènent ils peuvent nous ramener encore à notre entrepôt qui est à l'ancien mine de Nantes, à la Grenotte, tout ce qui est carton déjà trié pour que nous, ensuite, avec les bénévoles, on puisse mettre sur palette. Après, nous, on propose aussi des activités, c'est-à-dire, donc, comme je disais, les cours de français. On a aussi mis en place des cours de yoga tous les samedis. Il y a aussi des repas qui sont proposés par l'association Tinikmu tous les dimanches pour et par les Ukrainiens. On a aussi organisé différents événements de rencontres entre Ukrainiens. On vous souhaiterait mettre aussi en place rapidement des cours d'Ukrainien pour les Français, pour les familles d'accueil par exemple, et pour toutes les personnes en fait qui souhaitent apprendre l'Ukrainien aujourd'hui. On va avoir des festivals et des concerts qui vont arriver aussi. Donc entre autres à la Maison de l'Europe, avec la Maison de l'Europe pour le mois de l'Europe, il y a des programmations en cours. Et il va y avoir une activité dans le cadre aussi de l'événement sur la créativité Sting qui commence à Nantes là bientôt. Donc il y aura aussi un événement à la Maison de l'Europe, il me semble, là-dessus, avec les Ukrainiens. Et donc voilà, globalement. voilà, plus d'autres choses. On a aussi, on gère ici aussi une épicerie gratuite. Donc les Ukrainiens peuvent venir ici à la manufacture. Il y a à manger. Pour l'instant, on est beaucoup sur de la conserve, du sec. Mais encore une fois, sous peu, on pourra mettre à disposition des fruits et des légumes. Il y a aussi tout ce qui est besoin d'hygiène, nourriture enfant. On peut mettre à disposition des vêtements d'urgence, mais c'est pas forcément ce qu'on veut faire. On veut voir avec des structures du territoire qui savent déjà le faire et que nous, on n'est pas à gérer cette partie-là, pour qu'il y ait aussi une mise à disposition de vêtements gratuits. Donc voilà, il y a les permanences médicales qui sont ici aussi, deux fois par semaine. Il y a le CCAS qui est présent, ici. Et on a aussi des photographies, les photos pour toutes les photos d'identité qui sont faites aussi ici gratuitement pour les ressortissants. Et puis, bien évidemment, tout ce qui est traduction, parce que voilà, l'association Trizoom met à disposition des différents points avec d'autres structures, des bénévoles qui puissent traduire pour tout ce qui est démarche. Voilà.
Au flux et à mesure, Jet FM.
Moi, je m'appelle Karina, je suis une des coordinatrices de l'association Trizoop, de l'association franco-ukrainienne Trizoop. Et là, je suis sur place aussi pour coordonner, pour traduire, pour orienter les gens.
Et vous parlez quelle langue?
Du coup, je parle français, je parle anglais, russe, ukrainien et chinois.
Et quel est le rôle des interprètes dans les situations de crise comme celle-ci de l'Ukraine?
Je pense que le rôle d'interprète est vraiment essentiel aujourd'hui parce qu'on a toujours la barrière de la langue en fait sur plusieurs sujets ou plusieurs niveaux. Et du coup, c'est aux interprètes en fait de traduire pour les gens à l'accueil, pour tout ce qui est les rendez-vous du service social, les rendez-vous médicaux, l'accompagnement administratif ou encore l'accompagnement dans les hôpitaux. Et je trouve vraiment que le rôle d'interprète aujourd'hui, c'est essentiel.
Est-ce que vous pouvez décrire un jour ici de travail à la manufacture des tabacs?
Alors, ça va dépendre en fait de quel jour on parle, parce que on a quand même deux présences médicales sur site. Et du coup, quand on parle des jours avec la présence médicale, c'est très très chargé. Mais d'habitude, on arrive vers 10 heures. On fait un débrief pour les équipes. Il y a des gens qui arrivent. Et habituellement, soit ce sont des gens qui ont besoin d'hébergement d'urgence. Du coup, ils patientent un peu pour avoir la réponse. Soit ce sont des gens qui demandent des tickets de temps, comment faire pour le transport, qui se trouvent en fait un peu coincés, car ils ne savent pas trop le code culturel, ils ne savent pas comment s'orienter dans la ville. Et c'est pour ça en fait qu'on est là. Après, il y a aussi à l'après-midi, par exemple, il y a la présence médicale, il y a la présence des services sociaux. Et dans ce cas, on continue à traduire. Il y a un grand passage, un grand nombre de gens qui passent tous les jours. Et c'est à peu près ça.
Au flux et à mesure, Jet FM.
Vous êtes toujours sur Jet FM dans Au flux et à mesure. Vous venez d'écouter deux interviews à la manufacture des tabacs à Nantes. Yann Lowe, Damien Marmet et Karina ont ainsi pu nous parler de l'accueil des réfugiés ukrainiens mis en place à Nantes et de leurs différents rôles au sein de cet accueil. Tout de suite, vous allez écouter une interview d'Yves Pasco, élu de la ville de Nantes. Dans cette interview, il a pu expliquer ce qui était mis en place pour l'accueil des réfugiés, qu'ils soient ukrainiens ou non, ainsi que les difficultés qui étaient rencontrées dans cet accueil. La question d'une différence de traitement entre les réfugiés ukrainiens et non ukrainiens a aussi été soulevée. Bonne écoute.
Bonjour Yves Pasco, vous êtes conseiller municipal pour la ville de Nantes, en charge notamment des migrants. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Merci déjà donc de répondre à cette sollicitation. Alors avant de vous entendre, eh bien on a eu un reportage sur le centre d'accueil qui a été développé par la ville de Nantes à la manufacture des tabacs pour les réfugiés ukrainiens. Au-delà de ce centre d'accueil un peu d'urgence, quelles sont les actions mises en place par la ville de Nantes pour aider et épauler ces réfugiés ukrainiens?
C'est l'installation, le dispositif le plus important que la ville ait mis en place, parce que il y a une question de compétence. La compétence première pour l'accueil et l'intégration des réfugiés ou des bénéficiaires de la protection temporaire en provenance d'Ukraine, cette compétence relève de la compétence de l'État. Et la ville, comme elle le fait dans d'autres domaines, accompagne l'État dans cet accueil. Et c'est dans le cadre de cet accompagnement-là que la ville de Nantes a décidé de mettre en place un dispositif qui permet aux Ukrainiennes et aux Ukrainiens qui arrivent sur le territoire de bénéficier d'un ensemble de services relatifs essentiellement à leurs besoins quotidiens.
Alors, vous l'avez dit, hein, Yves Pascaud, c'est une compétence d'État. Ça veut dire que là, cette initiative de création d'un centre d'accueil, elle émane purement de la collectivité. C'est pas une demande qui vient de la préfecture, qui est mise en place dans toutes les grandes métropoles susceptibles d'accueillir des réfugiés.
Alors, chaque ville, en fait, procède de la manière qui correspond à la situation sur son territoire. À Nantes, la ville a fait des offres de services auprès de l'État qui, pour l'instant, gère la situation de son côté, ce qui n'est pas nécessairement le cas dans d'autres métropoles où la relation avec l'État est beaucoup plus importante. Mais pour l'heure, l'État mène les opérations relatives à l'accueil et l'accompagnement des réfugiés, notamment au regard de différents dispositifs. Et nous avons constaté que finalement, il y a un ensemble de besoins très quotidiens que les Ukrainiens et les Ukrainiennes dont ils souhaitent bénéficier. Et de ce point de vue-là, nous avons, de notre propre initiative, en effet, mis en place ce dispositif.
Alors, au-delà de ce centre d'accueil, la ville de Nantes aussi soutient les associations comme Trizoub sur la collecte, l'organisation de collecte.
Oui, c'est ça. Alors ça a été une opération qui a été mise en place très rapidement, notamment avec le concours de la Maison de l'Europe et de la métropole de Nantes, qui a été de permettre à l'association Trizoub, d'une part, de pouvoir bénéficier d'un bureau pour pouvoir lancer ces opérations d'accompagnement des personnes qui fuient l'Ukraine, et d'autre part, de pouvoir trouver un local où l'association Trizoub et l'ensemble des bénévoles qui l'accompagnent pouvaient collecter les différents dons qui étaient dirigés par la solidarité nantaise et plus largement métropolitaine.
Aujourd'hui, une des principales demandes de ces réfugiés qui arrivent sur le territoire nantais concerne le logement. Qu'est-ce que fait la ville de Nantes sur ce champ? Et est-ce que pour le moment, la réponse correspond aux besoins?
Alors, il y a effectivement une question en termes de logement, mais il faut la voir de deux manières différentes ou selon une double temporalité. La première temporalité, c'est de permettre aux personnes qui arrivent d'avoir un hébergement, c'est-à-dire un toit sur la tête, et de pouvoir réaliser les premières opérations nécessaires, notamment pour pouvoir bénéficier de leur titre de séjour ou de leur autorisation provisoire de séjour au titre de bénéficiaire de la protection temporaire. Cet hébergement-là, il est pour l'heure coordonné par l'État, et ce sont principalement des hébergements collectifs. Ensuite, l'État a demandé aux différentes collectivités, notamment du département, si elles avaient à disposition des logements pour l'accueil des familles ukrainiennes. Alors la ville et la métropole de Nantes ont mis à disposition quelques logements. Vous savez très bien que la situation du logement sur la ville et plus largement sur la métropole est une question qui est assez difficile et compliquée, et que la ville n'a pas nécessairement beaucoup de logements à mettre à disposition de ces personnes-là, sachant notamment que il y a des demandes et des listes d'attente qui sont très très importantes, et qu'il faut faire attention à ne pas privilégier les uns par rapport aux autres. Donc, pour l'heure, la ville de Nantes a proposé quelques logements, mais vraiment de manière limitée, parce que la capacité de ce point de vue-là est elle-même limitée.
Ce qui veut dire que ces réfugiés vont pouvoir trouver des solutions de logement en dehors de la métropole, en répartissant sur d'autres territoires de l'Euro-Atlantique ?
C'est toute la difficulté, en fait, aujourd'hui, dans une région qui est assez tendu du point de vue de l'immobilier, de pouvoir trouver du logement. Donc sur la ville centre et la métropole, cette question-là est compliquée, mais il n'y a pas qu'à Nantes que la situation est tendue. Donc il va falloir effectivement trouver des solutions plus pérennes, notamment dans les logements individuels. Est-ce que ce sont les collectivités, est-ce que ce sont les bailleurs publics et privés, ou est-ce que ce sont les citoyens qui vont permettre effectivement de répondre à cette offre en termes de logement, qui permettra à moyen et à long terme à ces hommes, ces femmes et à ces enfants de pouvoir s'intégrer et reconstruire leur vie ici.
Est-ce qu'il y aurait des marges de manœuvre du côté de la réquisition de bâtiments vides ou la mise à disposition via des bails temporaires de bâtiments municipaux en attendant eh bien, d'autres usages ?
Pour l'heure, la question de la réquisition n'est pas évoquée. Il n'en est pour l'heure pas question. Et ensuite, la question de la réquisition relève là aussi de la compétence de l'État.
D'accord. D'autres, il y a une question quand même qui émerge. C'est celle d'une différence de traitement entre l'accueil des réfugiés ukrainiens et puis des autres. Hein. Il y a historiquement à Nantes, et vous les connaissez, l'autre cantine par exemple qui accueille eh bien des réfugiés qui viennent de partout, notamment d'Afrique, mais pas que, et qui réclame, eh bien qui dit qu'il manque aujourd'hui pour ces publics-là près de 200 places pour éviter d'avoir des personnes qui dorment à la rue à Nantes. Comment est-ce que la collectivité accompagne hein, les autres réfugiés en dehors des Ukrainiens ? Est-ce que la problématique est la même, à savoir un marché immobilier tellement tendu que même la collectivité n'a plus de marge de manœuvre pour mettre en place des solutions de logement ?
Alors, la collectivité peut accompagner l'État. Hein. Je reviens souvent à cette notion-là, mais elle est très importante. C'est en première intention l'État qui porte cette compétence. La ville de Nantes, elle, ne fait pas de distinction entre les personnes ukrainiennes et les personnes provenant d'autres régions du monde. En fait, nous avons, pour les Ukrainiens, étendu des dispositifs qui existent déjà. Le dispositif qui a été mis en place à la manufacture des tabacs est d'une certaine manière la réplique de l'accueil de jour famille qui existe rue de RC et qui est un accueil de jour famille inconditionnel, quelle que soit son origine, quel que soit son statut. Les familles peuvent solliciter les services de l'accueil de jour famille et donc dans le cadre de la situation spécifique des Ukrainiens, dont on voit très bien que par l'ampleur et la force, le mouvement risque d'être très très important. Donc nous avons réussi à anticiper les arrivées potentiellement beaucoup plus importantes que celles que l'on enregistre aujourd'hui, en créant assez rapidement ce lieu d'accueil, mais qui n'est pas autre chose en fait que la réplique pour les Ukrainiens dans une situation tout à fait spécifique de ce qui existe déjà. Et il faut prendre en considération que l'ensemble des services qu'on qualifierait très largement d'universels, c'est-à-dire qui sont accessibles aux personnes, quel que soit leur statut, continuent à exister. Je pense par exemple au centre Agnès Varda, où les personnes, quel que soit leur statut, peuvent aussi se rendre. Donc la ville, en fait, ne fait pas de distinction dans la mise en disposition de dispositifs. C'est simplement ce dispositif-là qui a été activé parce qu'on en a l'expérience et les services de la ville en ont l'expérience, et qui a été activé pour cette situation tout à fait spécifique.
Vous parlez de cette situation spécifique avec l'arrivée de réfugiés ukrainiens à Nantes, en tout cas sur le territoire métropolitain. Est-ce que vous avez un peu de visibilité sur les flux qui sont déjà passés et ceux à venir ?
Alors, c'est très compliqué d'avoir une visibilité pour deux raisons. La première raison, c'est la visibilité depuis les régions limitrophes ou les pays limitrophes de l'Ukraine, où on voit qu'aujourd'hui, il y a environ 4,3 millions de personnes qui ont quitté l'Ukraine. Il y en a plus de 2,5 millions en Pologne. Ces personnes restent en Pologne parce qu'elles ont l'espoir de pouvoir retourner rapidement en Ukraine. Or, si le conflit s'enlise, comme ça a l'air d'être le cas, possiblement que ces personnes vont ensuite comprendre qu'il n'y a pas de perspective de fin de conflit sur le moyen ou le court terme, et donc vont décider de quitter ces lieux de transition en Pologne. Et là, on aura des arrivées secondaires, si je peux les qualifier comme ça. Et là-dessus, on n'a pas encore véritablement de visibilité, parce que cette mobilité-là, elle dépend aussi de la poursuite ou pas, de l'enlisement ou pas du conflit. Ensuite, on a une deuxième difficulté de lisibilité, c'est qu'on se rend compte aujourd'hui que les personnes arrivent de manière spontanée et autonome et sont logées soit dans de la famille, soit chez des connaissances, soit chez des hébergeurs solidaires. Et en fait, on n'a pas un dispositif qui soit totalement orienté et réalisé par l'État et qui permettrait de dire très clairement, eh bien là, on a 150 personnes qui arrivent, qui proviennent de tel endroit, qui arrivent tel jour et qui vont être orientées vers tel dispositif. Pour l'instant, ces situations-là n'existent pas ou elles sont très minimes par rapport à la réalité d'un flux qui est assez diffus et très autonome.
Pourquoi y a-t-il un écart entre les arrivées qui sont répertoriées officielles? On a eu des chiffres qui s'approchent par exemple de 1000 arrivées et puis seulement 226 statuts de protection octroyés. Est-ce que vous savez comment se fait ce tri?
En fait, les réfugiés ukrainiens qui sont en position d'un visa biométrique disposent d'un délai beaucoup plus large pour pouvoir introduire leur demande, c'est-à-dire qu'ils ont 90 jours pour faire les démarches, puisque le visa biométrique leur permet d'entrer dans l'espace Schengen et de pouvoir y circuler pour une période de 90 jours. Donc ces personnes-là n'ont pas une nécessité absolue de se rendre auprès des services de la préfecture pour faire inscrire leur procédure et faire enregistrer leur procédure. Ça, c'est un des éléments d'explication qui permet aussi d'expliquer les écarts entre le nombre de personnes recensées et le nombre de ou signalées et le nombre de personnes qui aujourd'hui ont effectivement un statut. L'autre élément, c'est que l'État est en train de mettre en place des dispositifs qui vont permettre de traiter plus rapidement les situations. Pour l'heure, le guichet unique qui a été mis en place par l'État était ouvert 2 jours par semaine. Les jours d'ouverture vont être beaucoup plus longs et beaucoup plus vont être étendus. Et de fait, le nombre de dossiers qui seront traités et donc le nombre de statuts et de reconnaissance de la protection temporaire va lui-même augmenter. Et donc les écarts en fait se situent ici et probablement que dans quelques jours, voire dans quelques semaines, il y aura une correspondance beaucoup plus importante entre les arrivées et les reconnaissances.
J'espère que vous aurez l'occasion de venir nous reparler justement plus largement de cette intégration des réfugiés ukrainiens. Une dernière question pour finir. Quelle peut être la place des citoyens nantais de la métropole qui nous écoutent?
Ce qu'on peut qualifier de solidarité sur le territoire, on sait qu'elle existe, elle est très présente. Il y a de nombreux acteurs qui participent et donc ils prendront tous leur part de la manière dont ils le font classiquement ou de manière nouvelle en fonction des circonstances, mais qu'il s'agisse des questions alimentaires, qu'il s'agisse des questions d'apprentissage de la langue, qu'il s'agisse des questions d'accompagnement culturel, sportif, dans l'emploi. En fait, on voit bien que, ou même des hébergements solidaires, à considérer toutefois que cet hébergement solidaire-là soit accompagné, parce que c'est une chose de vouloir accueillir, ce n'est une autre que d'accueillir sur le long terme des personnes, et donc ça nécessite là aussi un accompagnement. Mais on voit bien que la situation a fait émerger une solidarité très très importante, mais on a de la chance sur le territoire du Grand Ouest de manière générale d'avoir une solidarité qui est très très forte et qui s'exprime de manière tout à fait concrète. Et donc de ce point de vue-là, les acteurs de la solidarité de manière générale trouveront évidemment leur place et j'espère que leur place sera tout aussi importante demain qu'elle l'est aujourd'hui.
Merci Yves Pascaud. Je rappelle que vous êtes conseiller municipal pour la ville de Nantes, en charge notamment des migrants. Bonne journée.
Merci, au revoir.
Au flux et à mesure. Jet FM.
Vous êtes toujours sur Jet FM dans Au flux et à mesure. Vous venez d'écouter la première partie de l'émission spéciale d'aujourd'hui sur l'accueil des réfugiés. Dans cette partie, Alice et Louis sont allés à la manufacture des tabacs à Nantes, où a été mis en place un accueil d'urgence pour les réfugiés ukrainiens. Alexandra a ensuite pu interviewer Yves Pascaud, élu de la ville de Nantes, en charge notamment de la question des migrants. Tout de suite, vous allez écouter la deuxième partie de l'émission avec Juna Mila de l'autre cantine. On parle solidarité à deux vitesses et différence de traitement selon les réfugiés. Bonne écoute.
Moi, je m'appelle Juna Mila, je fais partie de l'autre cantine en tant que cofondatrice et coprésidente de l'association, et une association qui existe depuis 3 ans et demi. Eh bien ici, on est dans l'accueil de l'autre cantine. Donc c'est un bâtiment qui était un ancien café. Donc on est vraiment dans une salle de café avec des tables et le bar qui est toujours au milieu. Et avec nos canapés, nos chaises qu'on a rajoutées, machine à café, bouilloire pour faire le thé, pour un accueil du plus agréable. Alors l'autre cantine, on est une association qui a pour mission principale de collecter des denrées alimentaires et de préparer et distribuer des repas chauds et équilibrés, donc avec entrée, plat et dessert, 7 jours sur 7, aux personnes qui sont à la rue, principalement aux personnes exilées, On fait également une fois par semaine une distribution gratuite de vêtements, de produits d'hygiène. Et on est également très concernés, très attentifs sur la question de l'hébergement, du logement des personnes qui sont à la rue. Il y a quelques habitants qui sont ici, qui sont une petite dizaine.
Quels sont les dispositifs mis en place par la ville de Nantes pour l'accueil des réfugiés ?
Alors déjà, ça dépend qui est-ce qu'on appelle réfugié. Parce que c'est vrai que dans le vocabulaire courant qu'on utilise tous les jours, le mot réfugié, c'est un terme assez générique qui va être employé pour parler des personnes qui vont fuir notamment la guerre, des conflits. Mais dans le droit français, le terme de réfugié, ça fait vraiment référence à une situation administrative qui est celle des personnes qui ont obtenu l'asile. Et dans la sémantique qui est employée, on voit notamment que toutes les personnes qui habituellement viennent d'Afrique, du Moyen-Orient, d'Afghanistan notamment, sont des personnes qui vont être qualifiées de migrantes, de migrants économiques. Et on a toute une sémantique qui fait que qui joue sur la peur énormément, la peur de l'autre, sur la peur de l'envahissement. Alors que avec le conflit ukrainien, on voit que tout de suite la sémantique a été extrêmement différente et on a tout de suite utilisé le terme de réfugié. Il y a tout de suite eu une volonté d'accueil de la part du président Emmanuel Macron, du gouvernement et des métropoles. Donc c'est vrai qu'on sent qu'il y a une nette différence entre l'accueil des personnes qui viennent d'Ukraine et les autres. Ce qui est mis en place par la ville, il y a quand même des choses qui sont mises en place par la ville, même si c'est jamais suffisant. Il y a notamment il y a plusieurs dispositifs. Donc au tout début, au milieu de l'hiver, il y a eu notamment la mise en place du lieu d'hébergement de Brousset. Qui est un lieu d'hébergement qui accueille des familles précaires et réfugiées. Donc, c'est-à-dire vraiment des familles qui ont obtenu le statut de réfugié, qui ont une carte de résident. Il y a également eu la mise en place du rue de Gigant, du CHU, donc centre d'hébergement d'urgence, qui était un centre d'hébergement qui était piloté à la fois par la préfecture et par la mairie et qui faisait un accueil inconditionnel pour les familles, mais qui était sur orientation du 115. Oui, nous on a parlé de solidarité à deux vitesses parce que c'est vrai que depuis le début du conflit ukrainien, on a vu que ce soit l'État ou les collectivités locales et notamment la ville de Nantes mettaient en place tout un dispositif en fait de solidarité envers les personnes qui venaient d'Ukraine, que ce soit au niveau de l'hébergement, de l'accès au transport, notamment les billets de train gratuits. La mise en place d'un guichet unique, la mise en place d'espaces d'accueil dans les gares. Et en fait, ça, ce sont et quelque chose de vraiment spécifique à Nantes aussi, ça va être un guichet unique d'accueil pour les Ukrainiens qui n'est pas le même que pour les autres personnes qui arrivent en France. Donc les autres personnes qui arrivent en France, leur guichet unique d'accueil, c'est à France Terre d'Asile. France Terre d'Asile, c'est situé après à Luchère. Donc soit il faut prendre le tramway, puis un bus, soit il faut prendre un bus directement depuis le centre-ville. Et là, on voit que ben, pour l'accueil des personnes d'Ukraine, c'est à la manufacture. Donc c'est en plein centre-ville, c'est en face d'un arrêt de tramway, et c'est à 5 minutes de la gare. Et c'est un guichet unique, c'est-à-dire que toutes les démarches peuvent être faites là-bas. Contrairement aux personnes qui n'arrivent pas, qui ne viennent pas d'Ukraine, en fait, qui viennent d'autres pays, et qui, elles, sont beaucoup plus dans ce qu'on appelle de la galère administrative qui obligent les gens à bouger sans arrêt d'un endroit à l'autre pour toute leur démarche, en fait. Et nous, c'est vrai qu'on parle de solidarité à deux vitesses parce qu'on se dit, mais en fait, tout ce qui est mis en place pour les personnes qui arrivent d'Ukraine, tout ce qui est fait, tout ce qui est mis en place, c'est vraiment des choses qu'on demande depuis des années. Et on nous répond toujours que c'est pas possible, on nous répond toujours qu'il y a un risque d'appel d'air. Et en fait, on voit que quand il y a la volonté politique, tous les moyens peuvent être mis en place, quoi. Enfin, moi, je sais que la dernière fois, par exemple, j'étais dans le bus et effectivement, il y avait une famille ukrainienne et je me disais, je vois cette maman avec ses deux enfants et je me disais, mais oui, oui, forcément, quel soulagement, en fait, que ces enfants puissent être là plutôt que dans un pays qui se fait bombarder. Enfin, c'est génial, quoi. Et en même temps, je me disais, mais et tous les autres, quoi. Et tous ceux qui n'ont pas cet accueil-là. Parce qu'il faut bien penser que, par exemple, la Croix-Rouge française met en place un accueil à la gare de Nantes. Dans le hall d'accueil, avec tout un espace qui est délimité, avec un bel trac, avec des sièges, etc. Et moi, je me dis, mais en fait, combien de personnes, nous, on rencontre qui sont accueillies, mais dans le parking souterrain de la gare, en fait. Combien de familles qui ont dormi dans ce parking de la gare? Combien il y en a qui ont dormi dans les rues, qui n'ont eu aucun endroit d'accueil? Moi, je connais même des gens, ils ont mis parfois un mois à déposer leur demande d'asile parce qu'en fait, ils ne savaient pas où aller. Parce qu'en fait, rien n'indiquait, rien n'est fléché. Et que les gens, ils sont complètement perdus, quoi. Et du coup, c'est vraiment un sentiment d'injustice, de colère et même parfois de détresse, quoi. Parce qu'on se dit, mais en fait, tous les moyens peuvent être mis en place. Là, j'ai vu que dès le début du conflit en Ukraine, Emmanuel Macron avait dit, bon, nous, on souhaite accueillir au moins 100 000 Ukrainiens. 100 000, c'est à peu près le nombre de personnes qui viennent demander l'asile en France tous les ans. Et encore, ces dernières années, c'était moins, c'était 80 000. Ça veut dire qu'en fait, ce que l'État est capable de faire, ce que les collectivités sont capables de le faire pour 100 000 Ukrainiens, en fait, ça veut dire que depuis des années, en fait, on est capable de le faire pour tous les autres. Mais on ne le fait pas. Et du coup, ça veut dire que volontairement, on laisse des personnes galérer, on laisse des personnes à la rue, on laisse des personnes dans des tentes, dans des camps, on les laisse dans une galère infernale avec même ben, parfois des gens qui en meurent, quoi. Et quand elles n'en meurent pas, en fait, on ressort avec une détresse psychologique qui est intense, quoi. Et ça, c'est, pour moi, ouais, ça, c'est une vraie injustice et c'est vraiment très, très dur, quoi.
Oui, et du coup, bah, vos revendications sont assez simples, mais je pense que c'est quand même important de les rappeler.
Mais nos revendications, de toute façon, elles ont toujours été les mêmes, en fait. C'est que les personnes, elles puissent bénéficier d'un accueil qui soit digne. Donc, c'est-à-dire, ben oui, c'est ça, en fait, qu'il y ait un accueil à la gare, que les personnes, elles aient un vrai guichet qui soit juste à côté et que surtout, elles aient un hébergement. Parce qu'en fait, quand l'hébergement, c'est un peu la clé de tout. Parce que quand on n'a pas de toit sur la tête, quand on dort dehors à la rue avec ses enfants ou même seul, ça veut dire qu'en fait, on ne peut pas se faire à manger. Ça veut dire qu'en fait, on galère à se laver. On ne peut pas faire de machine à laver. On ne peut pas laver ses vêtements. Et on ne peut pas se poser correctement pour faire sa démarche. On ne peut pas être serein pour apprendre une nouvelle langue, pour apprendre une nouvelle culture, en fait. Et ça bloque tout. Et c'est vrai que nous, quand on voit tout ce qui est mis en place pour les personnes qui viennent d'Ukraine, on trouve ça génial. Et du coup, on aimerait, en fait, que tout ça, ce soit accessible de façon inconditionnelle à toutes les personnes qui viennent trouver refuge en France, quoi. Moi, avec l'autre cantine, je rencontre pas mal de familles ou de femmes seules qui viennent et qui notamment ont des soucis d'hébergement et qui dorment à la rue. Et au tout début, quand il y a eu le conflit ukrainien, je suivais une maman qui était avec un bébé de 1 mois et demi et qui n'avait pas d'hébergement. AQ 115 lui a dit non, on n'a pas de place pour vous. Et en fait, j'ai envoyé des mails à la mairie. J'ai appelé en fait tous les jours pendant une semaine. Et en fait, il n'y a jamais personne qui m'a répondu. On n'a même pas répondu au mail pour dire on accuse réception de votre mail, en fait. Jamais. J'ai jamais eu aucune réponse. Et ça fait un mois que, en fait, les interlocuteurs que normalement j'ai à la mairie avec qui je peux discuter, eh ben, en fait, ils me ghostent. Et en fait, c'est horrible. C'est vraiment, mais horrible parce qu'en fait, c'est un délaissement total qui est inhumain et qui pour moi, met certaines personnes dans une situation de dangerosité totale. Et en plus, je sais qu'ils le font parce qu'ils se disent de toute façon, les bénévoles vont le faire, en fait. Et du coup, tout repose sur les bénévoles, quoi. Là, pour le moment, il n'y a pas de dialogue, en fait. Tout est tourné vers l'Ukraine. Même toutes les associations qu'on contacte qui peuvent faire de l'hébergement nous disent, mais là, pour le moment, on ne peut pas, en fait. On est concentré sur l'accueil des Ukrainiens. Comme chaque conflit, un conflit, ça dure longtemps, en fait. Ça s'ancre dans le temps. Et ces questions-là d'accueil des réfugiés, elles vont aussi s'ancrer dans le temps. Parce que de toute façon, même quand on dit, bon, bah, nous, on accueillera 100 000 personnes, là, il y a 3 millions de personnes, bientôt 4 millions de personnes qui sont déplacées hors d'Ukraine. Mais il y a 10 millions de personnes qui se déplacent dans l'Ukraine et qui vont venir, de toute façon, dans les pays frontaliers. Quand il y aura 10 millions de personnes aux frontières de la Pologne, aux frontières de la Roumanie, mais en fait, ce ne sera pas un poids qui sera supportable pour des pays qui n'ont pas forcément la même économie que nous, en fait. Donc les gens, ils vont vouloir partir. Et à partir de ce moment-là, en fait, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que l'accueil des personnes d'Ukraine va s'arrêter ? Est-ce que, en fait, ça veut dire que tout ce qui a été mis en place pour les premiers arrivants, en fait, d'Ukraine, bah, ce sera uniquement pour les premiers arrivants et les autres, ils n'auront plus rien ? Et ça, je pense que c'est une vraie question qui va se poser avec le temps, quoi.
Vous êtes toujours sur Jet FM dans Au flux et à mesure. Vous venez d'écouter une émission spéciale sur l'accueil des réfugiés à retrouver en podcast sur le site jetfm.fr. Avant de se quitter, petite information d'actualité. Samedi prochain, 30 avril, se déroulera une conférence à Nantes intitulée « Épilepsie et mobilité, parlons-en ». Si vous souhaitez y assister, c'est à 10h30 à la salle Flora Tristan, pôle associatif Désiré Colombe, 8 rue Arsène Leloup. Le sujet sera abordé sur Jet dans l'émission Novi Kintsugi. À suivre dans l'immédiat, la chronique « J'existe ». Tout de suite après, vous pourrez écouter l'émission Chemin d'Afrique. Bonne soirée sur Jet !